des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Claude Teboul, qui est le président de France-Louisiane franco-américanie. Bonjour, monsieur Teboul.
Bonjour, monsieur.
Donc, vous êtes adhérent de l'association France-Louisiane, maintenant le président, depuis 1978, comme adhérent et président depuis un peu moins longtemps. Et depuis 1998, et pour la troisième fois, vous avez été agréé par le ministère des Affaires étrangères en tant qu'observateur aux discussions sur les accords franco-louisianiens 2004-2006. Je rappelle tout de même cette extraordinaire aventure, parce que c'en est une, moderne, sans parler même de celle qui s'est passée avant nous, mais l'historique. C'est-à-dire que c'est en 1968 que James Domangeau, avocat louisianais, sénateur d'origine francophone, a relancé la francophonie en Louisiane. À cet effet, il a obtenu la création d'un organisme d'État, le CODOFIL, conseil, je cite, conseil pour le développement du français en Louisiane. Et c'est également à la suite de ces actions que la Louisiane est officiellement devenue un État bilingue. Elle l'est toujours. Alors, il y a eu évidemment une série de dates extrêmement importantes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces dates que vous considérez être les plus intéressantes pour ce renouveau louisianais, c'est-à-dire depuis à peu près cette période 1980 à aujourd'hui?
Eh bien, je crois, comme vous l'avez dit, que nous devons beaucoup à James Domangeau, que j'ai eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises. James Domangeau, à l'origine, n'était presque pas francophone, tout au moins il parlait un français défectueux, et puis il s'y est mis avec une volonté tenace. Ce qu'il avait alerté, c'est que les grands-parents qui ne parlaient que le français ne pouvaient plus se faire comprendre de leurs petits-enfants qui ne parlaient que l'anglais. Alors devant ce hiatus, il a réagi. C'était un homme important. Il avait été à Washington représentant de la Louisiane. En Louisiane, il avait joué un rôle considérable, politique. Il avait de l'argent, ce qui ne nuit pas, bien au contraire. Et il s'est mis en tête de renverser la vapeur, puisque une constitution datant des années 20 avait interdit l'usage du français dans les écoles. Et à partir de ce moment-là, cela lié à la venue de nombreux « étrangers », entre guillemets, venus du Texas ou d'autres États avec l'exploitation du pétrole, cela avait amené évidemment le dépérissement du français, un dépérissement assez rapide. D'autant plus que dans les familles, on cherchait à enseigner, à faire apprendre l'anglais aux enfants pour qu'ils aient une part de cette manne qui s'abattait sur l'État.
Vous avez tout à fait raison de rappeler que c'est le pétrole qui a finalement corrodé le français à un moment, si on peut dire ça ainsi.
Enfin. Ah mais je le pense pertinemment. Je crois que c'était un État tout à fait rural. La Louisiane, un État agreste où il faisait bon vivre. Selon l'expression locale, on laissait les bons temps rouler. Et puis tout d'un coup, l'État de la Louisiane actuelle, hein, nous ne parlons pas de la grande Louisiane, celle que Bonaparte avait cédée aux Américains. Mais l'État actuel vivait dans une douce torpeur, encouragée par le climat.
Jusqu'en quelle année à peu près, ça, 1950?
Eh bien, le pétrole, on l'a découvert à l'orée du XXe siècle, mais on l'a exploité de façon continue et importante et industrielle à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Ah, oui, donc...
C'est à ce moment-là que le pays, enfin une partie tout au moins de la Louisiane, s'est couverte de ces monstres antédiluviens qui piochent dans le sol et qui ramènent le pétrole, et puis aussi dans le golfe du Mexique, dans ce que l'on appelle les plateformes en dehors du rivage.
Pour nos auditeurs, donc la période 1940-1960 est une période quand même assez destructrice pour la langue française là-bas.
Oui, qui avait commencé d'ailleurs l'enseignement intensif de l'anglais et l'interdiction de l'usage du français.
Ah,
donc,
en quelle année ça c'est?
Il y a eu une première période dans laquelle les enfants apprenaient l'anglais à l'école. Certes, ils parlaient encore le français à la maison. Et puis à partir du moment, comme je le disais il y a quelques instants, où il y a eu cette richesse qu'il fallait saisir au col, Donc, dans les familles, on a cessé de parler le français pour que les enfants parlent plus facilement l'anglais, qui était le viatique, pour qu'ils puissent justement participer de cette recherche. Donc, en 68, il y avait une sorte de traversée du désert. Le français s'était étiolé. Et Shams Domangeau décide, c'était un homme pugnace, il décide d'inverser la vapeur. Et pour ce faire, il s'adresse aux deux chambres, à la Chambre des représentants, aux Chambres des députés, au Sénat, et il fait passer tout un train de lois, dont l'une, vous l'avez mentionné tout à l'heure, est peut-être symbolique mais importante aux yeux des Louisianais, c'est que la seconde langue officielle de l'État de Louisiane à l'heure actuelle est le français. C'est le seul État américain qui soit dans ce cas, même les États dans lesquels il y a une minorité et quelquefois même une majorité hispanophone importante. Alors, il est venu en France également, car il lui fallait une aide extérieure. Il a rencontré le président Pompidou à l'époque, et dans son français rocailleux, en tutoyant, comme on le fait beaucoup là-bas...
Il parlait agréablement le français ou pas
Il parlait le français, mais un français difficile. Mais on l'a vu peu à peu améliorer son français, car il était appelé à s'adresser en français et à venir en France et à plaider sa cause. Donc, il fallait qu'il améliore son français, et il y est arrivé par sa ténacité, il y est arrivé. Donc, il a demandé qu'on lui envoie des enseignants de français. Il avait réalisé que le français avait commencé à dépérir à partir du moment où on avait cessé de l'enseigner à l'école. Donc, ce qu'il voulait absolument, c'était de réintroduire le français dans les écoles. Et pour ce faire, il créa le Conseil pour le développement du français en Louisiane.
Codophile.
Le Codophile, organisme d'État en quelque sorte, non pas subventionné, mais soutenu financièrement par l'État, dont le président d'ailleurs est nommé par le gouverneur. Quand je dis l'État, c'est l'État de la Louisiane.
Et les subventions étaient convenables, je veux dire,
C'est-à-dire qu'elles ont été fluctuantes.
Ah oui.
Lorsque la Louisiane, dans les années 75, même après, en 80-85, a connu, lorsque le pétrole a connu
coulé
une baisse sensible,
une baisse,
et qu'il n'était plus rentable de l'exploiter sur le sol de la Louisiane, évidemment, toutes les ressources qui provenaient, les ressources d'État qui provenaient du pétrole, se sont quelque peu taries. Et par voie de conséquence, l'État était moins généreux. Je me souviens, en 93, j'étais parti, on m'avait chargé d'une mission en Louisiane pour voir quel était l'état du Codophile, car on parlait même de le supprimer, ou suspendre les activités. Et puis les choses se sont remises, mais bien évidemment, depuis cette date, le Codophile n'a pas les moyens, n'a pas la totalité des moyens dont il pourrait, enfin dont il devrait, dirais-je, disposer.
Aujourd'hui, en 2008, quel est le budget du Codophile ?
Ah, le budget du Codophile, je ne le connais pas, mais ce que je puis vous dire, c'est que le personnel du Codophile a considérablement diminué, que ses moyens donc sont réduits et par voie de conséquence, son aura en a souffert.
Plus faible, oui. Plus faible.
À l'origine, le Codophile avait pour mission, comme son nom l'indique d'ailleurs, d'encourager le français, le Conseil pour le développement du français. Et puis, eu égard aux moyens plus restreints dont il dispose maintenant, il s'est un peu replié sur l'enseignement du français.
Ah oui,
ce qui n'est déjà pas mal,
déjà
mais
pas
enfin,
mal, oui. Pas mal.
Qui n'embrasse pas la totalité d'une action dans le sens de la francophonie. En revanche, ce sont des personnes du Codophile qui viennent en France auditionner les enseignants qui sont volontaires pour aller en Louisiane, puisque nous fournissons un contingent annuel. Lors
justement, de combien de personnes à peu près ?
Une quarantaine. Là aussi, c'est fluctuant. Et là, ça dépend alors du gouvernement français.
Détachés de l'éducation nationale, je présume.
Qui sont détachés pour 3 ans.
Ah oui, très bien.
Non renouvelables en principe, mais ce sont des enseignants, des instituts, enfin maintenant, des professeurs d'école titulaires, qui ont satisfait à un certain nombre de... qui répondent à des questions qu'on leur pose, enfin, qui ont un entretien.
Bien sûr.
Et la motivation fait beaucoup. Et aussi, il faut être réaliste, l'usage de l'anglais.
Ah oui, oui.
Donc,
ils doivent savoir parler l'anglais.
Oui, savoir parler l'anglais.
Alors, j'en viens à un deuxième aspect peut-être de notre entretien. C'est surtout France-Louisiane, franco-américanie. Alors, j'ai remarqué quand même que vous aviez 1200 adhérents. ce qui est quand même une belle une association de, déjà d'un bon poids, disons, d'une belle. Et est-ce qu'elle croît, cette association, avec les années, ou elle se maintient?
Non, elle tente à plafonner du fait d'une érosion qui est compensée par de nouveaux venus, mais tout de même, elle souffre, comme toutes les associations à l'heure actuelle, surtout les associations culturelles, d'un manque de jeunes, jeunes motivés. Ah, oui. Il fut un temps où les jeunes étaient motivés pour la francophonie. Maintenant, la francophonie, malheureusement, c'est une notion qui a l'air pour certains un peu ringarde, ce qui fait que nous avons peine à
motiver les jeunes.
Voilà.
Motiver
les jeunes. Nous savons, nous, notre centre de documentation est fréquenté par les jeunes, par obligation pour eux d'ailleurs, tout au moins pour ceux qui préparent une thèse ou un mémoire.
J'ai vu d'ailleurs que vous aviez un très beau centre, et je rappelle tout de même, je donne quelques éléments que j'ai là, centre de documentation bibliothèque, qui a été créé en 1985, d'abord axé sur la Louisiane et sur la Nouvelle-Angleterre, est devenu le plus important en Europe par sa spécialisation sur l'héritage français aux États-Unis. Grâce aux collections très diverses réunies, c'est un repère du savoir, avec la bibliothèque, avec ses 1200 ouvrages répertoriés sur fiche. Près de la moitié concerne l'histoire, la généalogie, la francophonie, la linguistique, l'ethnologie, la littérature et la musique. Il y a des thèses. La médiathèque comporte 136 vidéocassettes, etc. etc. La photothèque, au moins 2500 diapositives et plus de 400 photos. Donc vous avez là un ensemble, comme plus les collections de périodiques et revues d'outre-Atlantique, le fonds documentaire, dans les 80 dossiers réunissant des études, des articles de la presse internationale, des monographies, ce sont des milliers de documents analysés par thème, facilement exploitables grâce aux 8500 fiches manuelles et aux traitements informatiques mis en place. Donc il y a vraiment, pour les étudiants en France, je rappelle, je vais donner votre adresse aussi, si vous le permettez, votre numéro de téléphone, donc France-Louisiane, Franco-Américanie, 17 avenue Rey, 75 014 Paris. Le téléphone est le 01 45 88 02 10. Je retrouve le président Claude Teboul dans quelques secondes. Merci.
Saviez-vous que le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises? Cette collection dévoile les liens que l'on peut établir entre l'univers des estampes et celui de Claude Monet. Exemple avec sa toile emblématique, impression au soleil levant, composée de ponts japonais, de glycines et de nymphéas. Le peintre était un paysagiste passionné par les jardins d'eau exotiques, japonisants et propices à la rêverie. Cette émission Carrefour des Arts est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir dans cette deuxième partie d'émission Claude Teboul, qui est le président de France-Louisiane. Alors, monsieur Teboul, qu'est-ce que c'est que France-Louisiane? Présentez-nous France-Louisiane, les commencements et surtout aujourd'hui.
Eh bien, au début, c'était justement France-Louisiane, tout court. L'association a pris naissance en 1977 à l'occasion d'une série d'émissions que notre président fondateur, Michel Thauriac, avait organisée à Radio France. Il avait convoqué pour ce faire un certain nombre de personnes qui connaissaient bien la Louisiane, qui y avaient des attaches. Et tout ce monde-là a mis sur pied des émissions. Et lorsque cette mission a été terminée, ils ont eu peine à se séparer et ils ont créé une première association qui s'est appelée les Amis de la Louisiane. Et puis, étant donné qu'elle prenait de l'importance, ils l'ont appelée France-Louisiane. Et en 1986, si ma mémoire est bonne, au moment où nous avons été reconnus d'utilité publique, on nous a fait remarquer qu'il y avait un vide en ce qui concernait les États-Unis, car dans d'autres régions où il y avait des francophones ou des descendants de Français, il n'y avait rien. Et on nous a vivement conseillé, d'ailleurs c'était à l'époque la ministre, la francophonie, Madame Michaud Chevry, d'englober également la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire les 6 États du nord-est des États-Unis, où sont venus travailler des Québécois. Et ces gens, ces descendants de Québécois, lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, se nomment franco-américains. Et nous avons ajouté à notre appellation première franco-américanisme,
ah oui,
ce qui est un peu barbare, mais j'en explique le sens. Nous sommes devenus, de ce fait, France-Louisiane franco-américanie.
Très bien. Alors aujourd'hui, après une période vraiment d'exploration, de contact, de communication tout à fait intéressante, on le voit dans les quelques résumés que j'ai pu lire, etc. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de France-Louisiane?
Eh bien, l'avenir est un peu fonction du présent, parce que depuis un présent qui dure d'ailleurs, depuis 2003, nous avons opéré une sorte de virage, dirais-je, parce que nous nous sommes rendus compte à l'occasion justement du bicentenaire de la cession de la Louisiane, j'y faisais allusion dans la première partie. Eh bien, à l'occasion de ce bicentenaire, nous avons fait apposer une plaque sur le bâtiment où avait eu lieu la signature. Il se trouve que c'est un bâtiment prestigieux appartenant à la Bibliothèque nationale, rue des Petits Champs à Paris. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons pris conscience que, somme toute, les États-Unis se sont bâtis, si je puis dire, sur des terres françaises et que l'influence française a été forte. Il n'y a pas eu...
Ce qu'on ne savait pas tellement jusque-là.
Non, ce qu'on ne sait pas, aussi bien d'un côté de la Méditerranée que de l'autre. Et nous nous sommes justement donnés pour mission de le faire savoir. Donc, il faut remarquer qu'il y a eu cette... Tout à l'heure, vous faisiez allusion à ces quelques Français, je crois que c'était avant que nous ouvrions le micro, à ces quelques Français qui, contre vents et marées, ont maintenu l'influence. Eh bien, il n'était guère plus de 50 000, ces coureurs de bois, ces missionnaires, ces marchands de fourrures qui, grâce à des alliances avec les Indiens, car les Français avaient cette habitude de ne pas considérer les Indiens comme des sous-hommes, mais au contraire de faire alliance avec eux, de les considérer
comme des partenaires.
Comme des partenaires. Et comme des alliés, et comme, comment pourrais-je dire, il y a eu énormément de Français qui ont épousé des Indiennes. Certains Français prestigieux, sont devenus des chefs indiens dans certaines tribus. Donc il y a eu une sorte
Vous pensez auquel, par exemple?
Je pense à Gatine, par exemple, une ville qui rappelle son nom à la frontière du Canada. Il y en a eu d'autres. Moi-même, au cours de mes pérégrinations, je fais de longs trajets aux États-Unis. Dans des tribus indiennes, j'ai trouvé de nombreux non-français, à l'heure actuelle encore, jusque dans le Montana, assez loin. Donc il y a eu une empreinte dont les Américains ne sont pas toujours conscients. Par exemple, ils habitent des villes et qui ont des noms français, mais lorsqu'on les questionne, ils ne savent pas toujours vous dire pourquoi cette ville a un nom français. Et de très, très nombreuses villes, et on retrouve cela, donc cette présence dans la toponymie. Elle est constante
dans la
toponymie, dans certains monuments et dans l'histoire, bien sûr. Donc, nous nous sommes assignés la tâche de mettre en exergue ce fait. Nous avons une exposition qui circule et qui, justement, met l'accent sur cette origine française, si je puis dire, des États-Unis.
Mais les jeunes devraient être tout à fait intéressés par ce retour aux origines, cette reconnaissance, ce désir d'identité, etc.
Oui, d'autant plus que cela est lié au modernisme des États-Unis. Et donc, mais nous avons dans ce domaine quelques succès, soit par des conférences que nous sommes amenés les uns et les autres à faire, ou bien encore par cette exposition dont je vous parlais. Nous essayons de retrouver en France, par exemple, les origines de certains explorateurs ou même simplement marchands, mais qui ont marqué leur région, et de savoir d'où ils venaient en France. Par exemple, la ville de Duluth, dans le Wisconsin, eh bien, Duluth était originaire de la Loire. Et donc, il y a des endroits en France, Cadillac, par exemple, des endroits où l'on célèbre des gens, mais pas assez à notre gré, et nous voudrions justement réveiller cela dans l'intérêt des deux pays. Conforte l'amitié des deux pays.
Monsieur Teboul, vous sentez plus d'enthousiasme, si je peux utiliser ce terme, en France ou aux États-Unis?
Mais les deux. Les deux, nous voudrions sensibiliser, et chaque fois que faire se peut, nous le faisons aux États-Unis, par le biais d'organismes comme l'Alliance française ou bien encore les associations de professeurs de français ou bien encore des anonymes.
Vous avez des relations avec la Fédération des professeurs de français ?
Très bien. Nous essayons de susciter l'intérêt parce que généralement, lorsque l'on pense à ces liens entre la France et les États-Unis, ça se limite à Lafayette et à Pershing, ou tout au moins un de ses officiers arrivant et disant « Lafayette, nous voici ». Certes, oui. Les États-Unis nous ont aidés en deux circonstances graves. Lafayette les a aidés dans une conjoncture extrêmement sensible. Oui. Mais il y a autre chose que ces deux faits marquants.
Vous me direz tout à fait d'accord. Quoique, je pense que depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, grâce certainement à des associations comme la vôtre, il y a quand même une prise de conscience, certains travaux, certains livres qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Donc il y a vraiment une évolution. Mais je crois aussi...
Il y a une recherche.
Et je crois que Internet est un très bon moyen pour justement aller chez les uns, chez les autres, comme ça, facilement. Et je crois que l'utilisation d'Internet, je pense que vous utilisez bien Internet.
Nous avons un site...
Très bien.
Internet, oui. Un site qui est très visité. Oui.
Bon, alors je rappelle d'ailleurs l'adresse tout de suite de France Louisiane Franco-Américani, et je rappelle que toute personne intéressée par les relations entre la France et les États-Unis peuvent soit écrire au 17 avenue Reille 75 014 à Paris, téléphone 01 45 88 02 10, ou alors utiliser bien sûr l'adresse électronique qui est la suivante, flfa@free.fr. Alors en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire? Quels sont les messages que vous aimeriez passer pour France-Louisiane, Franco-Américani et pour les relations France-États-Unis?
Eh bien, le message que je voudrais faire passer, justement, c'est que nous ne sommes pas assez aidés. Nous contribuons, par notre position charnière, à entretenir, je le disais il y a quelques instants, à conforter, plutôt qu'entretenir, à conforter cette amitié entre les deux pays. Non seulement nous sommes à la charnière des deux pays, mais encore nous recherchons dans l'un ce qui vient de l'autre et ce qui a marqué, en quelque sorte, nous recherchons ce qui a marqué le territoire, ce qui a été marqué par les Français sur le territoire américain. Donc, toute trouvaille dans ce sens, toute accentuation de ce fait contribue justement à cette amitié. Et nous n'avons pas l'aide, je le dis tout crûment,
suffisante
que nous pourrions attendre eu égard à la mission que nous nous sommes assignés.
Est-ce qu'il existe des associations liées au nom de très grands explorateurs français de cette période aux États-Unis?
Lesquels? Vous avez une association Marquette-Joliette.
Mais alors, quelque chose, si vous voulez, qui est assez étonnant, est-ce que Français-Québécois collaborent dans ce domaine, c'est-à-dire, ou bien chacun tire sa couverture à soi?
Non, Français et Québécois collaborent, et il y a quelque chose avec une organisation, avec le Québec. Je rêve d'en créer une en ce qui concerne les États-Unis, c'est ce que l'on appelle les lieux de mémoire.
Ah oui, ça c'est
Elle est extrêmement vivace, elle est bien menée, elle est active, dynamique, et elle répertorie en France les lieux de mémoire. Il y a quelques instants, je parlais de ces gens qui étaient partis d'un coin de la province française pour explorer ou s'établir tout simplement aux États-Unis. Cela existe en ce qui concerne le Québec. Nous allons nous efforcer, dans la mesure de nos moyens.
Bien sûr.
Là que le manque d'aide nous contraint à plus de modestie.
C'est vraiment dommage.
C'est un peu ennuyeux.
Donc, ceux qui nous écoutent, et si quelqu'un, que ce soit aux États-Unis ou en France, a envie d'aider cette création des lieux de mémoire, cette reconnaissance des lieux de mémoire, surtout agissez, prenez contact avec France-Louisiane Franco-Américani, c'est une aventure magnifique. Alors, pour terminer notre entretien, qui est tout à fait stimulant, quels sont pour vous les quelques Français liés aux États-Unis qui vous plaisent le plus, vous intéressent le plus? Est-ce que vous avez vraiment 1, 2, 3, 4 personnages pour qui vous avez une véritable, j'ose pas dire vénération, mais une véritable passion?
Je me suis passionné pour Robert Cavelier de La Salle, qui malheureusement a eu un destin tragique, puisqu'il a été assassiné par ses compagnons au Texas. Il a eu une vie aventureuse. Il a d'abord découvert l'embouchure du Mississippi en descendant le Mississippi, malheureusement, il a lamentablement échoué quand il s'est agi de trouver l'embouchure en venant de la France, ce qui intéressait les Français. Robert Cavelier de La Salle et puis Marquette et Joliette. Marquette Mais et Joliette. Il faut remarquer, le moine d'Iberville a fait énormément. Il faut remarquer que ces gens qui venaient de France, et pour certains très récemment, ont quand même transité par le Québec.
Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui,
après, il y a eu des générations qui sont venues directement de France, mais les premiers explorateurs sont descendus du Québec vers d'autres contrées qui étaient c'est... plus tard les États-Unis.
Monsieur Teboul, c'est assez intéressant de voir comment la carte française de l'Amérique s'est dessinée, a été dessinée, donc le Mississippi, la Nouvelle-France et la Louisiane, alors que la carte espagnole, elle est passée par le Texas, par la Californie, Louisiane aussi, etc. Hein
les Florides.
Les Florides, bien entendu. Et ensuite, la carte anglaise, où, évidemment, un peu avant les Espagnols pour certaines régions, etc. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir. Donc, en conclusion, bien, je crois que vous avez là, nous avons là une association qui est France-Louisiane Franco-Américanie, qui est une association importante, qui n'a pas, comme vous venez de le dire, les moyens qu'il faudrait qu'elle ait, on peut tout à fait le regretter. Ben, je crois que tant les pouvoirs publics que des personnes privées, des fondations, des entreprises, pourraient aider cette association magnifique entre deux grands pays que sont la France et les États-Unis. Donc voilà, le message est passé et je vous remercie infiniment d'être venu chez nous à Canal Academy.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole.
Je vous en prie et donc à bientôt. J'espère. Merci. Bien sûr.